Selon un article de La Presse, seulement 50 médecins évoluent en soins palliatifs à temps plein. Le docteur Mathieu Guilbeault est un de ceux-là. C'est le directeur médical de la maison La Traversée et nous le recevons aujourd'hui en compagnie du directeur général Tom Poitras. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Docteur Guilbeault, peut-être nous expliquer comment ça se fait qu'il y a si peu de vos collègues qui ont choisi d'évoluer en soins palliatifs?
Bien, c'est ça. Alors, pour commencer, je vous corrige, je ne peux pas travailler, moi, comme médecin de famille en temps plein en soins palliatifs. Mmh. Donc, même si je suis le directeur médical de la maison de soins palliatifs, je dois faire ça en surplus.
D'accord.
Donc, lorsqu'on est au Québec, les médecins de famille, lorsqu'ils terminent leur cours, ont pendant 15 ans à assumer des activités médicales prioritaires. Donc, chaque région détermine les activités médicales prioritaires et souvent, les soins palliatifs ne font pas partie de ces activités-là. Donc, moi, je dois fournir, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, peut-être une trentaine d'heures par semaine pour ces activités-là. Et lorsque je suis capable de les compléter, là, je peux m'impliquer dans les soins palliatifs. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de médecins, de jeunes médecins qui peuvent travailler en soins palliatifs.
Il y a déjà cette structure-là des heures qui est un petit peu, pas nécessairement une contrainte peut-être, qu'on peut dire?
Oui, c'est une contrainte. Oui. C'est ça. Moi, qui ai toujours eu un intérêt pour les soins palliatifs, c'était clair que je voulais faire des soins palliatifs dans ma carrière. Quand je suis arrivé, moi, je travaillais dans la région des Laurentides, je ne pouvais pas faire que des soins palliatifs. Mm. Donc, j'ai une pratique assez variée, puis j'apprécie ça, mais c'est ça. Ça fait partie d'une de mes des occupations, mais pas uniquement la seule.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir évoluer dans ce domaine?
Ben les soins palliatifs, quand je suis rentré en médecine, je connaissais pas ça, un peu comme tout le monde. Et la première fois que j'ai été en contact avec un patient en soins palliatifs, ça a été le coup de foudre. Hein. Je me sens tellement privilégié de pouvoir faire ce travail-là. T'sais, si t'es en médecine et que tu apprécies l'être humain, ben c'est un privilège exceptionnel là, d'être en contact avec ces gens-là et avec leur famille. On a accès à des manifestations humaines très privilégiées, très fortes. Donc, c'est ça qui m'a attiré. En médecine, je croyais que c'est ça, notre priorité, c'était de soulager les gens et de guérir parfois. Malheureusement, en médecine, c'est pas ça qu'on observe beaucoup. Mais en soins palliatifs, c'est vraiment ça. On soulage les gens en premier lieu. C'est très satisfaisant pour moi.
Est-ce que justement, par rapport à la profession de médecin, comme vous le dites, on se dit qu'on veut guérir les gens, est-ce que ça ne demande pas comme un renversement de mentalité pour dire, on le sait qu'on ne sera pas dans la guérison, mais on est plutôt dans un accompagnement extrêmement humain, comme vous le soulignez?
Je pense que ça tend à changer. Je pense qu'on est moins dans le traitement à tout prix. Je me rappelle quand je faisais mon cours de médecine, j'avais fait un stage aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. Puis dans mon évaluation à la fin, c'était marqué « fera un bon médecin de soins palliatifs ».
Ah oui!
Même si j'étais aux soins intensifs, parce que j'aimais parler aux familles, c'est moi qui changeais souvent l'objectif de soins. Donc, je pense quand même que les jeunes maintenant médecins sont plus sensibilisés à ça, ils ont plus de cours, plus de formations, ils ont des stages maintenant obligatoires en soins palliatifs. Je pense qu'il y a un intérêt et une volonté de changer dans les facultés de médecine.
De votre côté, il y avait déjà peut-être un destin qui était là.
Oui. Oui, je pense que j'étais faite pour ça. Là. J'ai toujours aimé rentrer en relation avec les patients. Moi, en fait, quand je suis rentré en médecine, c'était pour être psychiatre, parce que je voulais être proche de mes patients, apprendre à les connaître. Puis finalement, j'ai plus trouvé mon compte là, en soins palliatifs. Là.
Et c'est ce côté-là, peut-être, quand vous dites que ça c'était un coup de foudre pour vous, est-ce que c'est parce que, rendu à cette étape-là de la vie, il n'y a plus de faux fuyants, il n'y a plus de masques, on est vraiment dans la fibre, la moelle de la vie, peut-être?
Oui, on est dans le vrai. Hein?
Ouais,
on est dans
ça.
Le vrai, puis même si on dit les soins palliatifs, il y a énormément de vie jusqu'à la fin. Hein. Donc, on est dans les dynamiques familiales, on traite le bio, mais le psycho et le social. Donc, c'est excessivement riche. Puis, il n'y a pas un patient pareil. Hein. Il n'arrive pas en fin de vie. Il n'y a pas de recette. Donc, je trouve qu'il faut être très à l'écoute de notre patient et s'adapter à eux. Donc, ça vient même nourrir ma fibre un peu créative parce qu'il n'y a pas de conduite à tenir. Là. C'est pas comme traiter une pneumonie, par exemple.
Oui. Et je comprends que la créativité, ça a été vraiment nécessaire pour créer ce projet de la maison, la traversée. Oui. Là, ça a été toute une épopée pour y arriver.
Oui. Oui, c'était quelque chose. Oui.
Peut-être Tom Poitras, directeur général de la maison La Traversée, pouvez-vous nous raconter ce qu'est la maison et peut-être ce qui a amené un peu cette grande aventure-là à être possible?
Bien, écoutez, c'est d'abord et avant tout un projet communautaire qui a duré plus de 10 ans avant même que les portes s'ouvrent. Ça a pris beaucoup de volonté de la communauté de la région. C'est un challenge financier et puis c'est un challenge aussi humain. Et quand on était supposé d'ouvrir, le COVID est arrivé et tout était en place pour une belle ouverture. Puis malheureusement, ça a ajouté un petit peu de sable dans l'engrenage. Mais la volonté des membres de notre conseil d'administration puis de la communauté était telle que c'était certain que la maison allait voir le jour coûte que coûte. Même les donateurs, évidemment, étaient au rendez-vous, entre autres la quincaillerie Gagnon et la famille Gagnon. Il y a aussi la fondation Choquette-Legault là, qui a été notre sauveur pendant le COVID. Et bien d'autres.
Oui, il y a plus de 2500 personnes qui ont contribué à la levée de fonds, hein, donc.
Oui, ouais. Tout à fait. Et ça continue à croître. Puis on en est bien bien content. Puis ce qui est très bien aussi, on a la communauté de villégiateurs de Montréal puis d'Ottawa dans la région. Qui sont ici les fins de semaine, qui commencent à prendre connaissance aussi de notre maison de soins palliatifs et qui aident aussi, malgré le fait que la plupart d'entre eux, c'est plus naturel pour eux de donner dans leur région de maison principale. Mais ça étant dit, ils sont vraiment au rendez-vous.
Il y a une sensibilité, sensibilité pour eux. Le docteur Guilbeault disait que c'est un sujet bon, qu'on connaît peu. Et en effet, il y a un sondage léger qui dit que 52 % en fait des répondants n'ont jamais abordé le sujet des soins palliatifs avec quelqu'un. C'est un sondage qui vous a surpris ou?
Ouais, ben non, je suis pas surpris.
Non, d'accord.
Et moi-même, je viens pas du milieu. J'ai été engagé pour quelques mois, et j'ai tellement été touché par la cause que ça.
Ça avait eu le coup de foudre vous aussi.
j'ai eu le coup de foudre. Non seulement de la cause comme telle, mais de l'équipe qu'on a ici en place, qui est absolument formidable. C'est vraiment un plaisir d'être au service de l'équipe qu'on a vraiment à la traversée.
Faites-nous entrer dans la maison, la traversée. Là. Comment c'est aménagé? De quel type de service? Là, je comprends que pour le moment, il y a 4 lits, puis un espace pour les familles, mais que vous avez le projet d'agrandir. Mais découvrez-nous, faites-nous découvrir l'espace.
Oui, bien, écoutez, la première chose, c'est que notre édifice est un édifice historique avec un toit en mansarde, avec des belles lucarnes sur un merveilleux site. Avec un boisé en arrière, avec un club de golf qu'on peut entrevoir entre le boisé. L'hiver, on a des traîneaux à chiens qui arrêtent systématiquement devant la traversée. Chaque chambre a des portes doubles où on peut simplement rouler le lit du patient sur un balcon avec la vue sur le boisé en question.
La majorité de nos patients, l'été, Tom, si tu me permets,
ben oui, je
préfère même, c'est tellement beau à l'extérieur, puis nos patients, c'est des gens de la nature, là, des gens des Laurentiers. Donc, la plupart de nos patients demandent même à décéder à l'extérieur. Donc, même vers la fin, lorsqu'il y a quelques jours de vie, ben, ils sont dans leur lit, on leur met un peu d'intimité là, avec les paravents, puis ils décèdent de,
Ah oui, vous les installez dehors à la Belle Étoile?
C'est arrivé qu'un patient qui a fait du camping dehors, mais le jour, là, qu'il y a un beau soleil, on les sort à l'extérieur, même lorsqu'ils sont en fin de vie, là, pratiquement même inconscients, ils peuvent partir quand même une fois qu'ils sont à l'extérieur.
Rejoindre les étoiles.
Oui, ouais, c'est ça. Je peux ajouter le petit catalyse qui a fait que je suis resté plus longtemps que 2 mois. C'est effectivement un patient qui est sorti dehors en une belle journée de printemps. Son épouse et ses 2 filles étaient en sa compagnie. Et croyez-le ou non, il y a eu des chevreuils qui se sont joints à eux pendant une demi-heure de temps. Et le patient est rentré dans sa chambre et 20 minutes plus tard, il est décédé. Alors...
Une sorte de paix qui s'est installée.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, puis on a plusieurs petites histoires comme celle-là là, qui font que notre endroit est vraiment un endroit magique.
Je comprends qu'on a voulu avoir les meilleures circonstances pour créer un espace calme et serein qui correspond bien à ce qu'on souhaite, à l'atmosphère dans laquelle on souhaite baigner là, pour nos derniers instants?
Oui, tout à fait. Faut pas oublier non plus que la plupart de ces patients-là ont souffert énormément avant de se rendre ici. Et puis c'est dur aussi pour leurs proches.
Oui.
Et quand ils arrivent ici... en détresse, en souffrance, en acceptant évidemment que ce sont leurs derniers jours, évidemment, ils lâchent prise et puis avec leurs proches et puis évidemment avec notre équipe ici jusqu'à leur dernier souffle.
Et donc, les familles, il y a un espace pour que les familles puissent aussi dormir sur place auprès de leurs proches?
Oui, tout à fait. On est, je pense, un peu unique dans la province, en ce sens qu'on a 2 jolies chambres pour les proches des familles. Parce que très souvent, les résidents, nos patients résidents, sont de la région, évidemment, mais leurs proches habitent Montréal ou Québec ou un autre endroit. Et alors, ils ont la chance de rester dans une de ces 2 chambres-là. Et tout ça, évidemment, sans frais.
Oui, donc vos services sont gratuits, je comprends. Vous êtes subventionné, je pense, à la hauteur de 40% par le gouvernement du Québec.
Oui, tout à fait.
Mais quand même, ça veut dire que 60%, c'est vraiment, comme vous le disiez, un projet d'une communauté qui a souhaité que cette maison-là existe.
Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste, évidemment, la construire, la rénover, la préparer. Ce fameux 60%-là, c'est chaque année qu'il faut solliciter la communauté. Et puis évidemment, les familles sont au rendez-vous qui ont la chance de passer par ici. C'est tout un challenge, ça, je peux vous dire.
et vous parliez de votre équipe formidable. Bon, déjà, je vous entends, vous deux, vous faites partie de cette équipe-là. Et s'il y a autant de douceur et de bienveillance chez le reste de votre équipe, je peux comprendre là, dans quelle atmosphère les gens qui vivent leur dernier moment évoluent. Mais parlez-moi des autres membres de l'équipe.
Tom, tu me permets?
Ben oui, je t'en prie.
Donc, c'est ça. Il y a toujours une infirmière sur place accompagnée d'un aide-soignant préposé. Je vous dirais qu'à la traversée, c'est vraiment eux les plus importants. Là, ils sont tellement en contact avec nos résidents. C'est eux qui tissent les liens, ceux qui font le plus de support. Le médecin, on nous dirait qu'on on n'est pas toujours sur place, donc c'est vraiment eux qui font le gros du travail. Puis, en plus de ça, ben, on est choyés, on a l'aide de bénévoles, d'une équipe bénévole là, qui donne du temps directement aux soins, ou à l'accueil, ou à la cuisine même, et au ménage.
Ah donc, oui.
C'est à peu près notre équipe. Puis, on a des infirmières aussi qui se forment tranquillement là, pour devenir massothérapeute, devenir acupunctrice pour donner d'autres soins là, à nos résidents.
Et est-ce que vous avez un appel aux bénévoles? Est-ce que ce serait bien d'en avoir plus ou ce serait plus dans le cadre de l'agrandissement, dans le cadre de la phase 2?
Je pense qu'une maison de soins PAN ne manque jamais, n'a jamais trop de bénévoles. Puis c'est tellement important, là, sans eux, la maison ne fonctionnerait pas. Là. Donc, surtout avec l'agrandissement qui s'en vient, qu'on souhaite, oui, on va avoir besoin de plus de bénévoles aux soins, c'est clair.
Dites-moi, les gens qui... vous parliez un peu dans quel état d'esprit ces gens vous arrivent. Ils arrivent de où? D'hôpitaux, de CHSLD, de la maison?
Nous, la majorité de nos patients sont transférés de l'hôpital, de l'unité de soins palliatifs. Puis sinon, ils sont référés par l'équipe de soins palliatifs à domicile. C'est à peu près les deux endroits qui proviennent. Okay. Oui.
Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir terminer leur jour à la maison?
C'est une bonne question. Dans le fond, avant que je commence à travailler, avant l'ouverture de la maison de soins palliatifs, je faisais les deux. Je faisais les soins palliatifs à domicile et les soins palliatifs hospitaliers. Et je trouvais qu'il y avait vraiment un manque entre les deux. Je ne veux pas demander de décéder à la maison. C'est possible au Québec, on a des équipes de soins palliatifs, mais les équipes ne peuvent pas être là en permanence. Donc, c'est de demander beaucoup, beaucoup à la famille. Donc, souvent, les proches sont appelés à jouer aux infirmières, puis ils sont beaucoup dans l'action. Donc, des fois, ça peut être peut-être trop lourd pour eux. Puis, pour des patients qui ont des symptômes particuliers, souvent, c'est mieux qu'ils ne se soient pas non plus à la maison. Ça serait peut-être trop difficile à gérer. Il y a trop de risques de complications. Donc, parfois, l'hôpital s'avère une meilleure option. Nous, ici, à Sainte-Agathe-des-Monts, on est chanceux. On a un hôpital avec une belle unité de soins palliatifs. Mais pour les patients qui préfèrent être plus dans un environnement qui ressemble plus à leur maison, mais tout en ayant tous les soins prodigué par un hôpital, bien, la maison de soins palliatifs s'avère souvent la meilleure option.
Oui, je comprends très bien la réalité que vous dépeignez. J'ai ma tante qui est décédée des suites de l'Alzheimer et mon oncle a tenté très longtemps de la garder à domicile, mais il est arrivé à un moment donné, non seulement un épuisement personnel, mais également on arrivait à une étape où ça dépassait ses compétences aussi.
Oui, c'est ça. Je fais du CHSLD aussi, là, puis effectivement, les familles, ils se donnent tellement, puis à un moment donné, ça fonctionne plus à domicile, puis quand je les vois arriver, les patients au CHSLD, je vois la famille là, dans un état d'épuisement là, complet, là. Ça peut être vraiment néfaste pour leur propre santé à eux. Donc, puis souvent, il y a comme la famille se met une pression, ils font des promesses à leurs proches, je te placerai pas. C'est leur demander beaucoup. Puis souvent, après, je me demandais quel type de deuil ça fait. Qui a joué à l'infirmier, dans l'action, moins dans l'accompagnement, moins dans l'échange. Puis là, pouf, le décès survient, ils perdent leur rôle d'infirmier, puis là, ils se retrouvent seuls à la maison. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je trouve qu'à la maison de soins palliatifs, qu'est-ce que j'apprécie, c'est que les familles ont le temps de se déposer. Ouais. Ils n'ont plus besoin de s'occuper des soins de leurs proches, puis ils ont le temps de
se préparer eux-mêmes.
Oui, c'est ça.
Donc,
la personne
elle-même qui est en fin de vie se prépare, mais le proche aussi.
C'est ça.
Parce que vous avez raison, que ça devient quasiment un double deuil.
Oui.
Il y a le deuil de la personne, mais il y a le deuil de mon rôle d'aidant, mon rôle d'action, qui fait en sorte que je réussis à contrôler peut-être un petit peu plus mes émotions.
C'est
et là,
ça.
Ça s'effondre en double.
Après, c'est un contre-coup là, qui nous frappe là, après un coup que le décès survient. Tout à fait.
Et dites-moi, les dernières évolutions autour de l'aide médicale à mourir, comment ça affecte les soins palliatifs et une maison dans votre genre, comme la maison La Traversée?
Ben, pour nous, ça change peu, dans le sens où les patients qui acceptent de venir vivre leur dernier moment chez nous, ils veulent vivre les soins palliatifs, ils font confiance à notre équipe. C'est très rare qu'on ait une demande d'aide médicale à mourir un coup que le patient est chez nous.
Oui, d'accord.
Par contre, on accepte des patients qui veulent recevoir l'aide médicale. C'est la façon qu'ils ont choisi de nous quitter. Ben, les autres, ils sont admis à la maison de la traversée pour obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, pour nous, ça change très, très peu. Est-ce que votre question concerne plus les demandes anticipées, peut-être?
Oui, bien, entre autres, je voulais voir un peu comment cette pratique-là impacte sur les soins palliatifs. Mais oui, en effet, est-ce que sachant qu'on peut le demander d'avance, est-ce qu'on peut décider que c'est chez vous qu'on veut faire ça?
Donc oui, les patients ont le droit de signer. Par contre, la nouvelle loi est assez un peu plus complexe. Hein? On pourrait faire une entrevue complète sur l'aide médicale. C'est assez complexe, mais advenant qu'une personne a un diagnostic maintenant qu'on sait qu'on est capable de prédire la mortalité, ce patient-là a le droit de signer un refus, une renonciation à l'aptitude. Donc, même s'il perd son aptitude, il va pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir. Par contre, si le patient est atteint d'une maladie neurodégénérative, maintenant, ils ont le droit de signer l'aide médicale. Par contre, peut-être que l'endroit approprié pour ce type de patient-là ne sera pas une maison de soins palliatifs. Mm. Parce que lorsqu'on signe d'avance, et dans le fond, le patient sait que sa maladie va progresser, il va avoir une perte d'autonomie, mais le décès ne surviendra pas. C'est très difficile à prédire la perte d'autonomie.
Ouais.
Donc, nous, il faut savoir que, étant donné le nombre limité de places là, à la maison de soins palliatifs, on accepte les patients qui ont un pronostic de moins de 3 mois.
Oui, c'est ce que j'allais un peu aborder, puis j'essayais de le faire avec délicatesse, là, parce que c'est difficile de parler d'une durée de séjour moyen, mais...
C'est ça. Donc, on accepte les patients qui sont vraiment en fin de vie, lorsqu'on sait qu'on pense qu'il y a un pronostic de moins de 3 mois, mais la durée moyenne de séjour chez nous, Tom, tu me corrigeras.
Oui.
C'est toi qui as les dernières statistiques. Est-ce que ça se peut que c'est 2 semaines?
Oui, c'est à peu près ça. C'est 15 à 20 jours, à peu près, en moyenne. Là. Ouais.
Ouais. Ça veut dire que pour vous et votre équipe, c'est beaucoup de gens que vous accompagnez par année?
En 3 ans d'existence, on a eu 200 décès.
Comment ça vous impacte? Parce que d'une manière, les gens restent pas longtemps, mais j'imagine que comme vous allez, comme vous l'avez dit, Dr Guilbeault, dans le vrai, on va dans le vrai, mais on reste pas longtemps. Comment vous vivez avec ça?
Il y a 2 aspects à votre question.
Oui.
Le premier, c'est qu'effectivement, on aimerait que nos patients arrivent plus rapidement chez nous. Je préfère lorsqu'ils arrivent de plus d'espérance de vie. Parce qu'on a le temps de se déposer, on a le temps d'apprendre à les connaître, on a le temps de nous faire confiance. Mais c'est pas facile pour les patients d'accepter de venir à la maison de soins palliatifs. Hein. Ils savent que c'est leur dernière maison, ils savent qu'ils s'en viennent chez nous pour mourir. Donc,
c'est la traversée.
C'est pas facile de prendre la décision d'accepter de venir chez nous, mais c'est 100% de nos patients, lorsqu'ils arrivent à la maison, qui nous disent « avoir su, je serais venu plus tôt ».
Ah oui.
Okay. C'est 100%. Ils disent tout ça. Donc, on aimerait ça les avoir plus tôt. Mais après ça, je vais essayer d'être humble, mais on fait quand même une très bonne job. Tous les gens qui travaillent avec moi à la maison de soins palliatifs, c'est vraiment une passion, c'est vraiment une mission. Puis lorsque les décès, ça se passe bien, il n'y a pas de douleur, on a bien accompagné la famille, il y a vraiment un grand sentiment de satisfaction. Oui, on s'attache aux patients, mais on les a vus souffrir, on les a vus en perte d'autonomie. Donc, le décès, c'est souvent pas triste en soins palliatifs, c'est souvent une délivrance.
Oui.
C'est comme ça qu'on voit ça. Et on a, une fois par année, une journée où est-ce qu'on fait une journée commémorative pour les gens qui ont passé chez nous. On invite les familles, puis il y a un recueillement avec les familles pour se remémorer, pour rediscuter de leur passage parmi nous. Ça nous aide aussi à tisser des liens avec les familles, puis à garder contact.
Puis pour le personnel aussi, je voudrais ajouter... périodiquement, on a des réunions post-mortem Parce qu'évidemment, on est humain, nous aussi, puis on s'attache aux patients. Puis,
c'est de prendre soin aussi de vous dans tout ça.
Oui.
Écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé cette entrevue aux héros anonymes. Tom Poitras, vous êtes le directeur général de la Maison La Traversée. Docteur Mathieu Guilbeault en est le directeur médical. Et si vous voulez voir cette belle maison pleine de vie, oui, hein, pleine de vie, chaleureuse,
oui,
sereine, on invite les gens à aller voir votre site Internet.
Merci à vous, Mme Doré. C'est très apprécié que vous nous avez donné un peu de temps.
Merci d'avoir été avec
merci
nous.
À vous.
Au revoir.
OK, au revoir.